Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Nouvelles du Monde, votre revue de presse de médias libres ou pas, réalisée 100% sans intelligence artificielle, puisque c'est le sujet du jour et de la semaine un peu partout. On va nous aussi s'y intéresser un petit peu, mais pas que. On va parler aussi d'un communiqué de du collectif de maintien pour le maintien de la maternité de Ganges, qui vient de faire le point un petit peu. Une projection sur un film raciste organisé par la Ligue du Midi qui vient d'être interdite à Castelnau-le-Lez. On va parler de vos téléphones, de vos smartphones et des terres rares, puisqu'on parle justement d'IA et de nouvelles technologies. Et puis voilà, des petites choses comme ça. Et puis voilà, on s'y met tout de suite. Tout d'abord, donc, un communiqué reçu sur la boîte mail info@radioescapade.org du collectif pour le maintien de la maternité de Ganges. Un communiqué de presse qui date de la semaine dernière, du 5 février, suite notamment à la visite du ministre de la Santé à Ganges. C'était le 31 janvier que Yannick Neuder, donc le nouveau ministre de la Santé, est venu pour inaugurer l'IRM de la clinique Saint-Louis. Un équipement absolument nécessaire pour éviter aux habitants des déplacements longs et coûteux. Donc, ce qui a été souligné par le collectif Maternité à défendre, qui a profité de l'occasion pour demander à être reçu, notamment les délégués syndicaux et une représentante de ce collectif. Un rassemblement de soutien devant la maternité était prévu, mais il a été interdit par le préfet, avec un déploiement policier sans doute un petit peu excessif, vu qu'a priori ils n'étaient pas là pour faire du grabuge, des mesures de précaution totalement disproportionnées, en tout cas pour les militants présents sur place. Le délégué CGT a d'ailleurs profiter pour rappeler que le collectif se mobilise depuis 2 ans pour sauver la maternité et que jamais il n'a été besoin justement de faire venir les forces de l'ordre. En tout cas, concernant la maternité de Ganges, ce collectif donc a fait état au ministre de la situation réelle du territoire, un territoire d'arrière-pays qu'il rappelle formé de 4 communautés de communes, aujourd'hui toujours privées non seulement de maternité mais aussi des urgences gynécologiques ou d'accès à l'IVG. C'est d'ailleurs grâce à leur dernière lettre à l'ARS qu'ils l'ont appris. Le conseiller ministériel qui était présent, Axel Weygandt, a fait part de la volonté du ministre d'être dans une dynamique d'ouverture et d'échange. Et il a rappelé que le ministre était lui-même auparavant élu de Moyenne-Montagne, et donc connaissant ce type de situation, il a rappelé qu'il fallait une offre de soins adaptée en tout lieu et que justement l'Agence régionale de santé était dans cette dynamique, travailler entre ville et hôpital, entre public et privé, et conforter l'offre de soins par un investissement de l'État. Les déclarations donc de la part du ministère de la Santé rejoignent les revendications du collectif pour le droit à une obstétrique et à une orthogénie de proximité. Il rappelle que la maternité de Ganges, avec en moyenne 250 accouchements par an, pourrait être comparée par exemple à celle de Saint-Girons en Ariège, qui fonctionne toujours avec 150 accouchements seulement par an. Des solutions là-bas ont été trouvées pour assurer le fonctionnement de cette maternité de niveau 1, donc pour les accouchements qui ne nécessitent pas d'intervention lourde. Et donc ça pourrait peut-être donner des idées pour ce qui pourrait arriver sur le territoire. Le collectif demande des mesures immédiates, comme celles prises pour permettre l'IVG dans le fameux centre périnatal de proximité, qui vient juste de recevoir de nouveau la possibilité de faire des IVG médicamenteuses. Voilà, il rappelle qu'il faut aussi remettre en place l'accueil des urgences gynécologiques ou des accouchements d'urgence dès maintenant, et que donc ce fameux centre de périnatal de proximité, dans le cadre de ce CPP, une préparation à l'accouchement physiologique devrait être mise en place avec une salle nature réouverte pour essayer de retrouver le label IHAB que possèdent seulement 2 autres maternités en Occitanie et qu'avait obtenu donc la maternité de Ganges peu avant sa fermeture. Voilà toute une liste D'autres réquisitions et de propositions sont annexées à ce courrier. Vous pourrez le retrouver si vous allez sur, par exemple, le Facebook de la maternité à défendre. En tout cas, elle vous invite à continuer à envoyer des témoignages et des propositions, puisqu'ils font remonter donc, de la part du terrain un petit peu la réalité des soins sur le territoire. Et aussi, on en profite pour vous inviter à une réunion publique d'information qui se tiendra le 18 février prochain. Une réunion sur l'avancement des démarches et la poursuite des actions qui aura lieu. Et donc cette réunion aura lieu salle du Cantou au Vigan le 18 février à 18h30. Elle fera suite d'ailleurs au comité de suivi qui est organisé par l'ARS le matin même. Voilà. Donc l'information est passée le 18 février au Vigan. N'hésitez pas à continuer à leur envoyer des témoignages. Et vous pouvez contacter soit Isabelle Boisson, soit Bruno Canard pour justement si vous souhaitez le faire au téléphone directement avec des membres du collectif Maternité à défendre. On reste dans l'Hérault à Castelnau-le-Lez où le maire a interdit, juste un jour avant, la diffusion d'un film qui s'appelle rend hommage au militant britannique Tommy Robinson. C'est le maire de Castelnau-le-Lez donc, qui a publié un arrêté qui interdit la diffusion de ce film dans sa commune. Le film s'appelle Silenced, ce qui veut dire silencé ou censuré. Et il a été produit par ce militant identitaire Tommy Robinson. Selon le maire, la soirée qui était prévue donc ce soir risquait de générer des troubles à l'ordre public. Le film dont on parle, il s'appelle Silenced. Il est produit donc par l'activiste anglais Tommy Robinson, et c'est un film sur lui-même. Il ne sera finalement pas diffusé, car le maire Frédéric Laforgue a pris donc hier un arrêté municipal pour interdire la projection de ce long métrage, en estimant notamment que la soirée pourrait engendrer des troubles à l'ordre public. Voici ce qu'il dit. Le film pourrait être disponible sur Internet, contient des propos complotistes, selon lesquels le gouvernement, les médias et la justice britannique protègent les fondamentalistes musulmans, relaient de fausses informations, défendent la charia et mentent au peuple, ce qui propage des idées racistes. Voici donc ce qui est écrit dans l'arrêté municipal. La soirée cinéma qui était ouverte à tous était organisée par le fameux groupe identitaire la Ligue du Midi, groupe identitaire donc d'extrême droite. Mais ce collectif compte de nombreux opposants, notamment les mouvements antifascistes locaux qui ont alerté sur la tenue de cette projection. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et notamment sur les réseaux sociaux, une campagne a été un petit peu lancée avec des appels justement à organiser une manifestation contre cet événement. Ce qui a donc motivé la crainte de troubles à l'ordre public et l'arrêté du maire pour interdire cette projection. Et d'ailleurs, le maire en a profité pour s'opposer publiquement aux idées véhiculées par le film. Il dit « C'est quand même un film où on a un appel à la haine et un appel aussi raciste. Donc moi, ce n'est pas dans mes gènes. Pour moi, les choses sont très claires là-dessus. » Ce film est sorti en 2022 et il évoque l'immigration et l'islamisation de la Grande-Bretagne, mais aussi l'affaire des viols de masse par des gangs pakistanais qui a ressurgi dans le débat public à l'initiative du ministre de l'efficacité gouvernementale des États-Unis, Elon Musk. Et ouais, il s'est remis aussi dans cette sauce. De son côté, donc, le militant Tommy Robinson, lui, actuellement, il est en prison parce qu'il a enfreint une décision de justice qui lui interdisait de répéter des propos diffamatoires envers un réfugié syrien. Ce militant nationaliste avait été l'un des premiers, je vous le disais, alerté sur le scandale des grooming gangs qui avait fait, à l'époque, plusieurs milliers de victimes en Angleterre. On va parler climat maintenant avec ce chiffre de 5%, à peine plus de 5%, c'est la proportion des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat qui ont rendu leur copie à temps. En effet, ils avaient jusqu'à hier pour publier leur nouveau plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan s'appelle les contributions déterminées au niveau national. Chaque pays doit s'engager à mettre en place des mesures. Et bien malheureusement, faute de caractère contraignant, seulement 10 des 195 signataires ont respecté la date de ce 10 février. Et encore, vous allez voir que c'est pas forcément parce qu'ils ont rendu une copie qu'elle était bonne. En tout cas, en signant ce traité international à Paris lors de la COP21, on était en 2015, tous les États signataires s'engageaient justement à soumettre tous les 5 ans une feuille de route qui détaille leurs objectifs climatiques à l'horizon 2035, donc dans 10 ans. Une première série avait été dévoilée en 2015, une deuxième fournée en 2020 et la troisième, c'était bien pour ce début 2025. Si cette mise à jour tarde, eh bien la COP30 qui est prévue ce mois de novembre au Brésil risque bien d'être chaotique puisqu'il n'y aura pas de chiffres sur lesquels discuter. En effet, au Brésil, on a affiché l'ambition d'intensifier la lutte contre le changement climatique au cours de cette COP30. Lula a envie de marquer un petit peu le coup. L'objectif, normalement, de cette COP30, c'est que la Terre soit enfin dans les clous du fameux accord de Paris. Autrement dit, qu'on prenne des décisions pour que la température mondiale soit maintenue à plus 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Et ça, c'est à l'horizon 2100. Seulement, tant que les nouveaux plans donc, ne sont pas publiés, les gouvernements continuent de s'appuyer sur ceux établis il y a 5 ans. Et si on regarde ceux d'il y a 5 ans, les Nations Unies, on explique que ça nous mène droit vers une hausse des températures plutôt de 2,6 à 2,8 degrés Celsius pour 2100. Donc on est bien loin des plus 1,5. Et je vous en parle souvent, ça fait des grosses différences, même un dixième de degré. Parmi les dizaines de retardataires, on peut citer l'Union européenne, le Japon, la Chine ou le Canada. Et chacun a une bonne excuse, un coup des difficultés techniques, peut-être pas de gouvernement apte à signer des textes, ou alors des pressions économiques, ou des incertitudes diplomatiques. Et là, il faut évidemment lorgner du côté des États-Unis, puisque pour beaucoup, il est désormais préférable de reporter la publication de leurs accords une fois la tempête Trump calmée, puisque Trump a clairement dit qu'il voulait sortir, lui, carrément de la COP, des accords de Paris. Si on s'intéresse à la Chine, qui est la première émettrice mondiale de gaz à effet de serre, elle n'a pas communiqué la date à laquelle elle entend sortir du silence. Du côté de l'Inde, des sources officielles avancent une parution de la feuille de route entre juin et décembre, et en plus une feuille de route qui devrait refléter la déception suscitée par la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan et un accord dit néocolonialiste. En gros, l'Inde ne se foulera pas avec des mesures. Au total, d'après une analyse du média spécialisé Carbon Brief, les pays en retard donc sur feuilles de route sont à l'origine de 83% des émissions planétaires. Ils pèsent pour près de 80% sur l'économie mondiale. Donc on parle bien des pays quand même les plus industrialisés. Pas de quoi troubler, en tout cas, le secrétaire exécutif de l'ONU pour le climat, Simon Steele. Il se veut rassurant. Il dit « D'après les conversations que j'ai eues avec les pays, les gouvernements prennent cela très au sérieux. Il est donc raisonnable de prendre un peu plus de temps pour s'assurer que ces plans soient de première qualité. » Au plus tard, l'équipe du secrétariat doit les avoir reçus d'ici septembre. Donc voilà, les retardataires auront les rattrapages donc en septembre, le but étant d'avoir tout d'ici novembre, il a l'air confiant. Et en même temps, si on se rappelle de 2020, déjà, seuls 5 États avaient tenu l'échéance du mois de février et finalement, les devoirs étaient arrivés un petit peu au compte-gouttes avant la COP. Reste à savoir, donc, pour ceux qui ont rendu leur copie à l'heure, ce qu'il en est. Dans le G7, c'est le Royaume-Uni qui a donné son nouveau plan, ainsi que les États-Unis. C'est grâce à Joe Biden, puisque c'était un petit peu son barreau d'honneur climatique, avant de rendre les clés de la Maison Blanche, il a sorti un texte qui est donc désormais purement symbolique, puisque les États du pays peuvent s'en inspirer pour leur politique locale, s'ils le souhaitent, mais au niveau général, Donald Trump a déjà amorcé le processus de sortie de l'accord de Paris pour ce qui est de l'échelle fédérale. Sinon, qui a rendu son plan ? Le Brésil, les Émirats Arabes Unis, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Uruguay, l'Andorre, l'Équateur et Sainte-Lucie. Et malheureusement, même dans le lot, je vous le dis, des pays sont réfractaires à se conformer à l'accord de Paris. Dans une étude qui a été menée par le projet scientifique indépendant Climate Action Tracker, les propositions du Brésil, des Émirats Arabes Unis, des États-Unis et des Suisses sont jugées non compatibles avec cette trajectoire des plus 1,5 degrés. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, on ne l'a pas encore analysé, mais l'ONG Carbon Brief précise qu'un expert climatique de la Nouvelle-Zélande les a décrites comme incroyablement peu ambitieuses. Bref, toutes ces projections sont bien tracassantes à 9 mois seulement de la COP30. Allez, on part un peu dans la tech, où là, par contre, du carbone, on en émet à veux-tu en voilà, et notamment de plus en plus avec l'IA. Mais là, on va s'intéresser des guéguerres entre les possesseurs justement de ces énormes entreprises à joujou. Un groupe d'investisseurs qui est dirigé par Elon Musk essaye en ce moment de racheter l'ONG qui contrôle OpenAI, l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI. OpenAI, c'est l'éditeur d'intelligence artificielle de ChatGPT. Cette proposition donc de rachat s'est soldée par un refus catégorique hier de la part de son patron Sam Altman. Pour prendre le contrôle de l'entité OpenAI, La figure du technofascisme, n'ayant pas peur des mots, Elon Musk a tablé en effet sur une offre d'un montant de 97,4 milliards de dollars. Une offensive menée en compagnie d'un consortium d'investisseurs hier auprès donc du conseil d'administration de l'éditeur d'intelligence artificielle ChatGPT. C'est le Wall Street Journal et le New York Times qui ont révélé cette info. Et sur X, eh bien, Sam Altman a répondu « Non merci, mais nous rachèterons Twitter pour 9,75 milliards de dollars si tu veux. » Donc pour un dixième de la somme, il lui a proposé de racheter Twitter. Donc c'est X en plus que maintenant qu'on appelle ça. Donc ça se clash un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Depuis 2018, Sam Altman, c'est le PDG d'OpenAI. Et d'ailleurs, en 2018, Elon Musk s'était retiré du partenariat qu'ils avaient, alors que les deux hommes avaient cofondé ensemble cette entité fin 2015. À l'époque, c'était un organisme à but non lucratif, donc avec un côté open source. Elon Musk, donc, de son côté, a par ailleurs lancé sa propre start-up d'IA générative, qui s'appelle XAI, quoi. Et il a déposé une première plainte à la fin du mois de février de l'année dernière contre OpenAI et ses deux fondateurs, en les accusant de fraude, conspiration, publicité mensongère. Puis il a retiré cette plainte pour la relancer plus grande. Il l'a élargie en effet en y incluant des allégations selon lesquelles Microsoft, qui est le principal investisseur d'OpenAI, et que la startup elle-même aurait enfreint le droit de la concurrence. Elon Musk, qui était également maintenant à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, D-O-G-E en anglais, a demandé donc ce mois de décembre à la justice américaine d'empêcher OpenAI de se transformer justement en entreprise entièrement à but lucratif. Il passe de non lucratif à lucratif. Et en effet, cette offre non sollicitée d'Elon Musk arrive, donc les 97 milliards d'euros, alors que Sam Altman essaye de lever des fonds et de transformer d'ici fin 2026 sa start-up en entreprise traditionnelle. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de bon ou de méchant dans cette histoire. Hein. Les visées de l'un ne sont pas plus rassurantes que celles de l'autre. On peut citer Sam Altman dans un documentaire qui est diffusé justement ce mardi 11 février qui s'appelle « Les sacrifiés de l'IA », un documentaire de Henri Poulain. Il aborde les dessous de l'intelligence artificielle et voilà ce qu'il en dit. « Les robots vont voler des métiers et tuer des humains. » Mais le phénomène dans son ensemble, sera extrêmement positif pour l'humanité. Ouais, voilà, chocho quand même les guéguerres de ces gogoles armés de robots.
L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement.
Veuillez lâcher votre arme. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du Code pénal.
Ouais, c'est un petit film qui date, qui s'appelait Robocop, qui était assez bien vu là-dessus. Alors, on passe au smartphone maintenant. Quel est le lien, justement? C'est une devinette entre votre téléphone, un métal rare, et la guerre en République démocratique du Congo, qui porte assez mal son nom. Eh bien, il y a de fortes chances, justement, que votre portable contienne une quantité minuscule d'un métal qui a commencé son voyage enfoui dans la terre de l'Est de la République démocratique du Congo, où une guerre fait actuellement rage et se ravive. Il pourrait d'ailleurs même être directement lié au groupe rebelle M23 qui a fait la une des journaux cette semaine. C'est le tantale qui est dans votre appareil photo et qui pèse moins de la moitié d'un poids de jardin moyen, donc très peu, mais il est pourtant essentiel au bon fonctionnement d'un smartphone et de presque tous les autres appareils électroniques sophistiqués. Les propriétés uniques de ce métal rare, d'une couleur gris-bleu et brillant, notamment la capacité qu'il a de conserver une charge élevée par rapport à sa taille, une charge électrique, tout en fonctionnement à différentes températures, tout ça en font un matériau idéal pour les minuscules condensateurs qui stockent justement temporairement l'énergie et qui sont dans tous les circuits intégrés d'électronique. Il est extrait, donc je vous le disais, en RDC, mais aussi au Rwanda, au Brésil ou au Nigeria. Mais c'est quand même au moins 40% de sa production mondiale qui vient de la République démocratique du Congo. Et certaines des principales zones minières sont désormais sous le contrôle du mouvement rebelle M23. La vague actuelle des combats dure depuis des mois, mais les rebelles ont attiré l'attention avec l'assaut de dimanche sur le centre vital de commerce et de transport de Goma, une ville à la frontière du Rwanda, qui est un centre régional pour l'industrie minière. Au cours de la dernière année, le M23 a progressé rapidement dans l'est de la République du Congo, qui est riche en minerais, en s'emparant des zones d'extraction du coltan, le minerai à partir duquel on extrait le tantal. Comme de nombreux autres groupes armés qui opèrent dans cette région, le M23 a commencé par défendre les droits d'un groupe ethnique perçu comme menacé, mais au fur et à mesure que son territoire s'est étendu, l'exploitation minière est devenue une source cruciale de revenus qui permet de payer les armes et les combattants. Ainsi, au mois d'avril dernier, il s'est emparé de Roubaix, la ville qui est au cœur de l'industrie du coltan de tout le pays, et donc aussi, vous l'aurez suivi, d'une partie de la planète. Dans cette région, l'extraction minière n'est pas entre les mains de conglomérats multinationaux. Hein. C'est de l'entreprise individuelle, des milliers de personnes qui travaillent dans des mines à ciel ouvert, qui sillonnent le paysage ou sous terre dans des conditions extrêmement dangereuses et insalubres. On parle de gens qui sont en short et en t-shirt dans des petites mines tenues par des bouts de bois et qui creusent avec des pioches. Une fois que le M23 donc, s'est installé à la ville de Roubaix, les rebelles ont mis en place ce qu'un groupe d'experts de l'ONU a décrit comme une administration de type étatique, qui délivre notamment des permis aux creuseurs et aux négociants et qui exige une redevance annuelle de $25 et de $250 respectivement. Le M23 a doublé les salaires de ses creuseurs d'ailleurs pour s'assurer qu'ils continueraient à travailler et le groupe gère la zone comme un monopole. Il s'assure par la menace d'arrestation et de détention que seuls les commerçants autorisés pourront faire des affaires. Et en plus, le M23 prélève une taxe de $7 sur chaque kilo de coltan exsu. Le groupe d'experts de l'ONU a ainsi estimé que le M23 gagnait environ $800,000 par mois grâce à la taxation du coltan à Roubaix. Et il est quasiment certain qu'ensuite cet argent est utilisé pour financer la rébellion. Il reste un point d'interrogation sur la manière dont le minerai est sorti de ces zones contrôlées par le M23 et qui rentre ensuite dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de tous les smartphones du monde. Bien selon les experts de l'ONU, c'est par le Rwanda voisin donc, qui est considéré comme plutôt soutenant le M23, que se passe la réponse. Il faut savoir qu'en théorie, il y a un système de certification, le ITSCI, qui s'appelle Innovative Tin Supply Chain Initiative, un label donc de traçage, qui devrait signifier que ce qui entre dans la composition d'un téléphone ou d'autres appareils électroniques ne provient pas de zones de conflit, où il pourrait être utilisé pour financer des groupes armés, justement. Eh bien, ce label a fait l'objet de certaines critiques. On pense qu'il a réussi à être dévoyé. Certains accusent même les agents de l'État de vendre des petites étiquettes en négociant. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on extrait du métal, on met des étiquettes sur des sacs. Mais vous l'aurez compris, ce sont des petites quantités. Donc, beaucoup de petits sacs circulent. Et voilà, un petit peu de corruption. Personne ne gagne bien sa vie. Du coup, les étiquettes apparemment se revendent. Les commerçants peuvent alors se rendre dans l'est de la République du Congo et étiquettent eux-mêmes les sacs. Dans le cas de la ville de Roubaix, justement, le label a suspendu ses activités, de toute façon, peu après l'entrée des rebelles dans la ville. Et pourtant, le groupe continue à exporter toujours du coltan. Et ainsi, les experts de l'ONU pensent avoir réussi à retracer un itinéraire sinueux qui montre comment ce coltan est transporté jusqu'à côté de la frontière rwandaise, puis transféré dans des camions de gros tonnage, qui ont nécessité d'ailleurs l'élargissement de la route pour les accueillir, car le Rwanda aussi possède ses propres mines de coltan, mais les experts affirment que justement, du coltan non certifié, donc qui vient du voisin du Congo, est mélangé à la production rwandaise, ce qui va entraîner ensuite une contamination importante des chaînes d'approvisionnement. Les chiffres notamment qui avaient été publiés entre 2022 et 2023 de l'US Geological Survey montrent que les exportations de coltan du Rwanda ont augmenté de 50% sur cette année-là, et ça semble correspondre justement avec la situation au Congo. C'est Ken Mathisen, un expert en sécurité et en gestion des ressources, auprès de l'IPIS, un groupe de recherche indépendant sur la question, qui déclarait que justement tout cela ne pouvait pas provenir du Rwanda et que donc c'était très certainement du coltan issu des mines d'à côté de la RDC. Afin de mettre le problème en évidence et son lien avec l'industrie des smartphones, d'ailleurs, le gouvernement congolais a déposé des plaintes pénales en France et en Belgique à la fin de l'année dernière contre des filiales du géant technologique Apple. Il utilise d'utiliser des minerais de conflit. Apple conteste l'allégation en soulignant que depuis début 2024, en raison justement de l'escalade du conflit et des difficultés de certification, elle aurait cessé de s'approvisionner en tantal, entre autres métaux, auprès de la RDC et du Rwanda. Ça, c'est pour Apple. D'autres entreprises n'ont pas été aussi claires, ce qui signifie qu'à mesure que le M23 s'empare de nouveaux territoires, ces petits morceaux de tantal provenant des mines qu'il contrôle pourraient encore se retrouver dans les appareils auxquels nous sommes toutes et tous habitués. En effet, 70% de la population mondiale possédait un smartphone en 2023. Les fabricants de smartphones en ont vendu environ 1,34 milliard dans le monde. Et le marché ne cesse de se développer. En 2024, il poursuivait sa bonne lancée avec plus 6,5% de ventes par rapport à l'année dernière. Et l'intelligence artificielle, qui pourrait devenir justement le prochain moteur de croissance de ce secteur après la 5G et les appareils pliables, eh bien, risque de certifier encore une énorme croissance de ce marché. Allez, on finit ces infos avec deux petits extraits d'une rubrique qui s'appelle « Ça va mieux en le lisant ». C'est dans les colonnes de Libération et ce sont des petits articles qui mettent en lumière, qui donnent un petit peu plus le moral. Voilà. Souvent, ce sont des nouvelles de la nature, de l'environnement, des sciences. « Le chant des baleines à bosse et la communication humaine auraient plus en commun que ce que l'on soupçonnait ». C'est en tout cas ce qu'affirme une étude parue dans la revue Science Advances jeudi dernier. Une équipe de 8 scientifiques à l'origine de l'article révèle en effet une structure jusqu'ici cachée dans le champ des baleines à bosse, ce qui conforte l'idée d'un langage qui leur serait propre. Les auteurs ont fait l'hypothèse suivante. Étant donné que le champ des baleines à bosse semble être transmis culturellement de génération en génération, comme chez nous, comme chez l'humain, leur langage obéissent peut-être aussi à des lois linguistiques communes et ils sont donc... à pied d'œuvre pour essayer de décrypter ce qu'ils peuvent. Et on termine le nez dans les étoiles en évitant évidemment les satellites qui brouillent la vue. Si vous avez souvent le nez en l'air en ce moment, bon là il fait pas beau mais les étoiles passent souvent, vous aurez peut-être eu la chance de voir que 6 des planètes du système solaire se trouvent actuellement dans le même secteur du ciel vu de la Terre. Et pour la plupart sont observables à l'œil nu. Et d'ailleurs, la 7e, Mercure, rejoindra le Grand Balai ce 28 février. Le ciel étoilé de ce début d'année est remarquablement brillant, hein, avec plusieurs astres qui scintillent visibles à l'œil nu. Ce sont 4 planètes du système solaire, avec de l'ouest vers l'est, on a Mars, Jupiter, Vénus et Saturne. Vous pourrez ajouter aussi Neptune et Uranus, mais celle-là, il faudra la regarder avec un télescope. Et donc, clou du spectacle, Mercure arrive ce 28 février. Pour cet événement qui est assez rare au niveau astronomique. Mis à part sa beauté, cette parade planétaire n'a eu aucune influence sur la Terre, hein, contrairement à la Lune, qui a un effet sur les marées. Vénus, Jupiter ou Saturne sont bien trop éloignés pour pouvoir produire un quelconque changement mesurable sur la planète bleue, sauf évidemment si vous êtes fan d'horoscope. Cette parade, en tout cas, s'achèvera le 12 mars, d'après les calculs de l'Observatoire de Paris. Et c'est d'ailleurs Pascal Descamps qui est astronome et qui était interrogé dans les colonnes de National Geographic. Il explique que la prochaine de ces grandes parades devrait avoir lieu entre le 28 mars et le 6 avril 2036. Et cette fois-ci d'ailleurs, il y aura en plus la Lune dans la danse. Entre-temps, pour les impatients, un autre grand aliment matinal aura lieu dès cet été. Ça sera le 11 août avec Mercure, Vénus, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne visibles toutes en même temps. Manquera seulement Mars. Alors à vos jumelles et on se fait la promesse de ne pas utiliser les smartphones pour regarder les étoiles dans le ciel.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Ouais, d'accord. Allez, je vous quitte là-dessus, à l'heure. Et puis on se donne rendez-vous jeudi hein, pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.